vendredi 4 novembre de l'an de grâce 2011. Vous écoutez La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, un plaisir bien entendu de vous retrouver cette semaine pour parler bande dessinée, pour parler illustration, pour parler animation. Marie, cette semaine, ce sera surtout concentré sur la bande dessinée, plusieurs axes qu'on aura l'occasion d'explorer au fil de l'heure à venir, notamment en chronique, Michel Giguère sera de passage en fin d'émission pour porter un regard sur Londres au 19e siècle. Quelle perspective la BD met-elle de l'avant quand on parle de cette cité? Il y a eu tellement d'albums qui s'y sont intéressés. Donc, quelle image projette-t-on? Alors, on explorera tout ça en route, bien entendu, vers les rendez-vous de la BD mercredi prochain où il y aura la suite de cette exploration-là. Alors, on met un peu la table pour les rendez-vous de la semaine prochaine avec Michel Giguère tout à l'heure. Côté chronique, il y aura également Summer Duck qui sera avec nous dans quelques instants. On va porter un petit regard sur The Death Ray de Daniel Klaus. Sinon, côté entrevue, on va parler bande dessinée de science-fiction. Il y a une nouvelle série qui a été lancée de type comics, pourrait-on dire, en fait. Donc, la science-fiction, ça s'appelle Zidara 9, une bande dessinée disponible version papier, disponible également en version iPad, iPhone et autres déclinaisons de type mobile. Alors, on explorera tout ça en compagnie de ces deux créateurs, Rémi Paradis et Matteo. Par ailleurs, en entrevue également, on reviendra un peu sur l'Halloween, j'ai envie de dire ça comme ça, puisque le nouveau tome de la série Titi Crapouti de Stéphanie Leduc s'y consacre presque entièrement avec le tome 2, donc l'exode des cerveaux, qui se passe autour de l'Halloween. Alors, il fallait bien la recevoir dans cette période. On parle ici de bande dessinée jeunesse. Alors, c'est le menu pour cette semaine. J'en profite également pour vous diriger vers notre compte Facebook, parce que oui, il y a le blog, mais il y a également le compte Facebook qui est accessible via le blog. Alors, allez à lavieenbd.wordpress.com, vous allez tomber, il y a le patent que j'aime sur le côté. On a mis quelques liens aujourd'hui, notamment la BDiste Laurence Lemieux qui a fait un espèce de répertoire, en fait, des visages féminins de la relève en bande dessinée québécoise. Alors, je trouvais ça intéressant. Effectivement, ça ouvre certaines portes pour aller justement découvrir ces jeunes talents. Il y a également le magazine Télévoir qui, cette semaine, a consacré une partie de son émission à tenter de définir ce qu'est le roman graphique autour de la sortie prochaine de Paul au parc. Alors, quelques liens de ce type qu'on a mis sur notre compte Facebook. Allez y faire un petit tour. Et sinon, notre sélection musicale de cette semaine, on retourne dans un passé pas très lointain, en fait autour de 2008, avec une formation montréalaise qui s'appelle The Banjo Consortium. On écoute quelques pièces de leur album Turning One. Et on commence immédiatement avec un extrait qui s'appelle Grinkler, ici sur les ondes du 89.1. Thank you. Sébastien Banjo Consortium, mais c'est eux qui vont nous accompagner en musique cette semaine ici à La Vie en BD. Et on se lance immédiatement avec les regards qu'on porte de manière hebdomadaire avec Sam Murdoch. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Je pense que oui. Je pense que oui.
C'est ça qu'il faut.
Si je sors de mon lit, c'est parce que je vais bien.
Avec la grippe qui court ces temps-ci, là,
c'est, ah, mais moi, je c'est dis, vraiment si, joyeux. Si tu dors assez, tu ne lèches pas des poignées de porte, tu pognes pas la grippe.
Et Sam, en fait, on va s'en aller sur le terrain donc de la BD anglophone avec l'album de Death Ray de Daniel Klaus. Mais peut-être justement, pour avant de se lancer sur l'album, peut-être mettre un peu la table sur Drawn and Quarterly.
Qui publie plein de trucs. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'amour. Ce que j'aime de l'amour, c'est le comic book. Puis qu'est-ce que j'aime du comic book? C'est le côté business. Moi, je me retrouve ici, je me retrouve à parler de comic book américain. Puis... de ma jeunesse, c'est toujours venu comme un coup de cœur. À travers les années, j'ai jamais vraiment suivi, je pense, la business autour du comic book américain. Quand t'es jeune, je disais, bon, surtout du manga, surtout de la bande dessinée européenne, tu sais, les Torgal et tout. Mm-hmm. Tu connais l'auteur, tu connais le dessinateur, mais c'est pas le côté business. Donc là, je me retrouve, travail de fin de semaine, première issue. Toutes les semaines, je fais des commandes de comic book. Mm-hmm. Puis moi, tu reçois la part graphique. De chacune des maisons d'édition. Donc, l'argent qu'ils font, puis l'argent qu'ils génèrent.
Pour voir un peu si ça vaut la peine de les faire venir ou pas en librairie.
Ouais, c'est ça. Ouais, t'as fait... non, mais,
si
oui,
ça attire beaucoup.
Si ça attire beaucoup, mais l'autre truc, c'est vraiment juste la part du marché mondial de chacune de ces maisons d'édition-là. Puis, t'as des maisons d'édition qui sont magnifiques, qui font une part infime, parce que c'est moins en masse. Là. Mm-hmm. Puis, donc, cet automne, pour la première fois, en plusieurs années, DC Comics, j'en ai parlé récemment, puis les gens peuvent le voir sur Internet, leur nouvelle numérotation qui recommence au numéro 1. Pour la première fois, DC dépasse Marvel dans les ventes.
Ah, quand même. C'est ça, renversement, ça veut dire qu'ils ont gagné leur pari avec...
Mais ça veut dire qu'ils
pour l'instant.
Ils ont 34% du marché au lieu versus 33% pour Marvel. Mais ça, puis après ça, bon, tu as IDW, Dark Horse, qui sont juste un peu en dessous. Mm-hmm. Puis donc, le troisième plus gros vendeur, c'est Dark Horse parce qu'ils ont Star Wars, avec 3% du marché.
Mon Dieu. Ça descend très rapidement.
Ça descend très rapidement. Puis moi, j'aime beaucoup les imprimés, j'aime les livres. Je dis souvent, on est comme une des dernières générations qui peut se permettre d'imprimer des livres, de faire des beaux trucs. Puis une des maisons d'édition qui imprime, je pense, selon moi, les plus beaux trucs... au pays, moi en province, donc de Montréal, Drawn and Quarterly, eux se retrouvent en 10e position, donc dans le top 10 vendeurs comiques, livres, avec 0,009% du marché du distributeur Diamond, qui est le distributeur à travers l'Amérique du Nord des comic books.
Et ça revient donc un peu à ce que tu disais, ben regardez, c'est pas parce que ça tire beaucoup que c'est nécessairement meilleur, génial ou plus beau, parce que... Pour ceux qui connaissent la maison d'édition de Drawn and Quarterly, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui produisent, qui sont absolument superbes, absolument géniaux aussi.
Ce qui arrive, c'est ce qu'ils vendent, justement, ça va aussi avec la masse. Tu sais, t'as Marvel, DC qui font des films, qui en impriment à l'infini toutes les semaines. C'est moins de la bande dessinée d'auteur, donc. Ce qui arrive, Drawn and Quarterly, qui ont publié, bon, Chester Brown, Guy Delisle, Seth, Joe Sacco, Chris Ware, puis c'est tout le temps des super beaux livres. Un autre truc, Drawn and Quarterly, qui ont fait, qui était magnifique, les Moomins. Je ne sais pas si tu connais les Moomins.
Non.
Les Moomins, c'est un peu comme des... c'est un mélange entre... je sais pas, c'est une gang d'hippopotames hippies.
OK.
Non? Ça ne dit rien?
Non, ça ne me dit rien, mais ça m'intrigue, par exemple.
Pour les auditeurs qui vont reconnaître les Moomins, c'est... Il y a une série télé que joue au Canal Famille au début des années 90, qui était une coproduction France-Japon avec les Moomins. Les Moomins, ça vient de la Finlande. C'est Tove Jensen, qui est possiblement une des seules... femme cartooniste, un peu qui faisait des strips dans les journaux, un peu comme les Charlie Brown et tout.
Oh oui.
Mais c'est une femme qui a fait ça de 1954 à 1993. Lesbienne, féministe, professeure d'art, elle faisait de la sculpture. Puis c'est des strips qui sont vraiment magnifiques. Si tu vois en Finlande, tu as Moomin World, qui est un peu Disneyland, mais avec les Moomin. Puis les gens se souviennent d'une série qu'ils ont fait parce que, à travers les années, ils ont fait beaucoup, beaucoup de séries. C'est un sujet, je voulais une semaine en parler des Moomin, parce que c'est un coup de cœur. Drawn Quarterly ont fait. Des recueils de toutes les strips qu'ils ont fait dans les journaux, puis c'est devenu des best-sellers en Finlande, parce que c'était la plus belle édition qui existe.
Des Moomins.
Des Moomins. Puis les gens se souviennent de la chanson des Moomins, non?
Non, ça me donne envie d'aller
parler. Non, mais à l'époque, dans YouTube t'écoutais, il y avait Dumbo.
Oui, mais en fait, je me rappelle pas de tout dans mon enfance.
Non,
je dirais qu'il y a des bouts que j'ai oubliés.
Moi, je suis plus la semaine passée. Mais donc, vas-y.
Et j'allais dire, en fait, Sam, Dwan and Quarterly, c'est eux aussi qui proposent de Detray. Entre autres, donc, ça, j'imagine.
C'est le concert, oui, tout à fait, qui propose Detray. Bon, mon conseil, mis à part Limo Mins, qui est magnifique chez Dwan and Quarterly, c'est eux qui ont fait The Detray, donc qui est paru il y a 3 semaines en couverture rigide. Daniel Klaus, qui est une espèce d'exemple. Moi, j'aime beaucoup, je disais tantôt, la bande dessinée européenne, parce que souvent, c'est moins incessant, les sorties. Mm-hmm. Moi, ce que j'aime croire, c'est ça qui est drôle, hein, le comic book américain, t'as beaucoup d'investisseurs. Puis moi, j'aime pas ça parler en tant qu'investissement, souvent en bande dessinée. T'aimes ça, voir que c'est de l'amour. Mais t'as le comic book américain qui a 75 ans d'histoire. Puis imagine, si tu sors 15 numéros 1 par semaine, t'sais, l'éditeur, on dirait qu'il a pas le temps de les lire. Là. T'sais, quand tu sors une bande dessinée européenne, un Torgal, t'imagines, il dépose son 48 pages, qui sort aux 2 ans, l'éditeur a le temps de le lire, il comprend ce qui se passe.
Et c'est un peu cet univers-là qu'on retrouve avec les publications de Dwan and Quarterly, justement, oui, où c'est plus la BD anglophone, mais un peu à l'européenne, entre guillemets,
en tant que format. Ben, dans le format, le format cartonné, un c'est gros ça. Format, ça fait quand même un peu européen. Puis ce que j'aime aussi, c'est, ben, je te dis tantôt, dessinateur, auteur, la bande dessinée américaine, donc quelqu'un qui fait l'encre, quelqu'un qui fait le dessin, quelqu'un qui fait le scénario, quelqu'un qui re-scénarise, qui redessine. C'est une grosse équipe, c'est impressionnant. Puis maintenant, les gens sont même plus dans la même pièce. Mm-hmm. Mais il y a quelques auteurs qui m'impressionnent, qui font couleur, scénario, dessin, puis toute la conception, dont Daniel Klaus, qui est une espèce d'exemple avec peut-être des gens comme Chris Wark, qui m'ont toujours impressionné dans la bande dessinée, qui ont une espèce de nouveau mouvement de la bande dessinée indépendante américaine. Donc,
et en quelques mots de Detray, qu'est-ce que c'est?
Ben, Daniel Klaus avait sorti des petits fanzines depuis 89 qui s'appelaient 8 Balls. Mm-hmm. Donc, sortait à chaque quelques mois des fanzines avec des histoires un peu. C'est tout le temps des personnages un peu pathétiques, tout le temps des anti-héros. Sont plus connus, peut-être qu'en fait, c'était Ghost World,
okay. Ah, oui,
qui
oui,
était
oui.
adapté en film. Il y a aussi Art School Confidential, qui était adapté en film aussi par Terry Zigoff. Donc, puis en 2004, dans le 8 Ball numéro 23, il a fait une histoire qui s'appelait The Detray. Donc, c'est une espèce d'histoire farfelue. Tous les personnages sont pathétiques, tous les personnages sont louches tout le temps, mais c'est qu'ils sont quand même attachants. Puis dans The Detray, c'est une espèce de jeune qui est adopté, ses parents sont morts, on ne sait pas pourquoi. Puis finalement, il se retrouve à fumer. Puis là, vomissement, tombe, il s'évanouit, puis il se rend compte qu'il a des super pouvoirs. Puis il trouve une lettre de son père qui dit que son père, qui était un microbiologiste, il dit « J'ai mis une espèce de quelque chose dans ton corps qui allait être déclenché par la cigarette. » Puis il dit « Maintenant que tu lis ça, tu dois avoir 12-13 ans. » Puis finalement, lui, il en a 18. Là. Puis il pensait que son fils, allait, au moment qu'il allait fumer. Puis finalement, il se retrouve avec des super pouvoirs, puis il se retrouve à avoir un fusil qui s'appelle un Detray. Donc, qui est le fusil où est-ce qu'il peut tuer des gens.
Donc, c'est une espèce de version un peu décalée du concept classique de super-héros, mais là, on l'offre à une autre sauce.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça qui est le fun. Daniel Klaus a tous ces personnages, donc un peu dans la Ghost World. Là. C'est tous des personnages atypiques, tous des personnages vraiment stéréotypés, drôles, dans une espèce d'univers, puis où rien, jamais va bien. Puis, la version que John Quarterly propose, bon, qui est une réédition finalement, mais couverture rigide, magnifique livre, magnifique histoire, ça vaut la peine. Moi, c'est mon conseil de la semaine. De l'amour des bandes dessinées.
Voilà, et en fait, déjà, je pense que les noms évoquent quelque chose. Dès qu'on renvoie un peu à des films, il y a des référents, ouais, et j'ai l'impression que si j'aimais bien l'ambiance de ces films-là sans avoir lu les BD, probablement que l'univers de Klaus m'intéresserait globalement.
100%.
Alors, ben voilà, The Detray chez Dwan and Quarterly, suggestion de Sam Murdock. Merci beaucoup.
Ben de rien.
Et à bientôt.
Merci.
Et nous, on repart en petit extrait musical avec la formation Banjo Consortium. Banjo Consortium avec la pièce Burning Feet. Petit extrait, donc ici à la vie en BD. Et tel qu'annoncé au début de l'émission, on va s'intéresser un peu à l'univers de la science-fiction. On va rester dans la BD de Tip Comics, mais faite au Québec. Donc une BD québécoise de science-fiction qui a été lancée tout récemment, qui est disponible autant dans certaines librairies à Québec, également en format iPad et mobile. Et pour nous en parler, ces deux créateurs, tout d'abord en fait en studio, on a le plaisir d'avoir Rémi Paradis avec nous. Bonjour.
Salut.
Et au bout du fil, Mathéo. Bonjour.
Salut.
Alors, gros projet qui est arrivé à son aboutissement il y a de ça quelques semaines. Qu'est-ce qui vous avait amené à vous lancer chacun de votre côté là, dans la création d'une BD de science-fiction comme ça?
Moi, je dirais, en fait, avant la création, c'est sûr que moi, je voulais à la base développer ma propre édition puis offrir une nouvelle vision de la bande dessinée québécoise de science-fiction.
Donc, tout simplement essayer de dire, ben, OK, ajoutons un peu à l'offre qui est disponible.
Oui, c'est ça. Vraiment s'amuser avec le genre, en tout cas.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu partages de ton côté, Mathéo?
Ben oui. Ben en fait, la science-fiction, ça n'a jamais été un genre que j'avais expérimenté. Moi, j'ai jamais été un fanat des étiquettes. Mais c'est Rémi qui m'a contacté et m'a demandé de participer à son projet. Puis quand j'ai entendu le mot science-fiction, ben j'ai tout de suite pensé à des clichés, mais je suis parti dans cet esprit-là avec la BD que j'ai faite, mais c'est...
Oui, parce que dans le fond, c'est un peu le défi. On a une idée peut-être un peu au départ d'une BD de science-fiction. Bon, il s'en fait quand même un peu quand on tombe dans l'univers de genre au Québec. On peut penser à Front Froid, par exemple, il y a la collection Retard aux 400 coups. Mais en fond, Rémi, quand tu dis un peu renouvelé, qu'est-ce que tu cherchais un peu à apporter côté édition, côté contenu avec le projet d'Idara?
Peut-être une nouvelle vision dans le sens... peut-être plus québécoise, mais offrir un divertissement avec de l'action, puis des personnages originaux qui iraient accrocher les Québécois.
Oui, donc dans le fond, de dire, ben, regardez, si c'est fait ici, c'est fait avec la sensibilité d'ici, mais peut-être que ça va plus facilement rejoindre le public d'ici, au bout du compte.
Oui, c'est ça.
Et la BD aussi, ce qui est à souligner, bon, d'un côté, c'est de l'auto-édition, et de l'autre côté aussi, il y a les déclinaisons mobiles. Je pense qu'en fait, au Québec, vous êtes parmi les premiers, voire les premiers, à développer une application pour diffuser, pour lire ces BD-là sur, exemple, des iPads.
Oui, c'était une idée à la base de fournir un nouveau médium pour avoir quelque chose de différent, puis ce médium-là... ça offre aussi de nouvelles perspectives, dans le sens que il y a des bandes dessinées qui deviennent plus interactives, puis comme les nouvelles perspectives, comme le motion comics, qui sont plus intéressantes, puis qui deviendraient plus populaires à long terme, en tout cas.
C'est la possibilité d'expérimenter la narration d'une autre façon, en s'éloignant du carcan de la page.
Effectivement, en fait, on peut travailler par case, on peut travailler avec intégrer de l'animation, même éventuellement dans des cases ou des choses comme ça.
Oui, dans une prochaine édition, c'est ce qu'on voudrait faire, en tout cas, vraiment offrir de quoi de plus divertissant, puis vraiment aller chercher ce que pourrait offrir ce genre de support-là.
Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils l'exploitent déjà un peu. En fait, il y a des applications, tu me les montrais d'ailleurs, Rémi, avant l'émission, DC Comics qui en a, mais il n'y avait pas encore, justement, de gens au Québec qui avaient essayé de reproduire un peu ça et de voir comment on pouvait aussi en faire une version « made », entre guillemets, mais finalement, votre application est bonne, elle fonctionne, est de qualité, est équivalente pas mal à ce qu'on fait du côté américain.
Oui, certainement. C'est ce qu'on voulait offrir aussi. C'est une librairie de bandes dessinées où on pourra en ajouter d'autres par après. Puis c'est ce que Zidora 9 voudrait offrir aux auteurs, la possibilité d'avoir accès à plusieurs bandes dessinées, en tout cas.
Ça offre la possibilité aussi de s'exporter un petit peu plus facilement puis de sortir de juste du marché du Québec, parce que c'est quand même un milieu assez restreint. Fait que si on veut avoir un lectorat un petit peu plus vaste, il faut aller voir ailleurs. Avec l'iPad ou les mobiles, c'est une façon d'aller chercher un public extérieur plus facilement.
Et et d'ailleurs, en fait, les BD sont d'ores et déjà traduites en anglais et en espagnol. Donc déjà, on voit que vous avez vraiment un souci, justement, de rendre votre travail le plus accessible possible.
Le plus possible, effectivement.
Et parlant de la BD elle-même, vous êtes... Pour la réalisation des deux premiers RBD, parce que bon, c'est le volume 1, il y aura d'autres volumes, en fait. Les deux premières BD, c'est l'accident de Tessa et pour Rémi. Et pour Mathéo, c'est le tour du cosmos en 80 ans. Est-ce que vous étiez donné un cadre de création, une thématique pour s'assurer qu'il y avait un pont à faire entre vos deux séries, ou simplement vous êtes parti en disant bon, OK, on se lance, on fait de la science-fiction, on voit où un peu notre inspiration va nous mener?
Ben, le mot-clé que Rémi m'a envoyé, c'était science-fiction. Fait qu'il a fallu que je parte avec ça, puis comme de fait, pour moi, la science-fiction, ça m'apportait une image d'un cliché. Fait que c'est, mon histoire, ça tourne autour de trois clichés, dans un sens. Premièrement, avec le titre qui est un peu un vieux titre de Jules Verne, t'as l'histoire vers la fin qui rapporte beaucoup à la planète des singes, puis. Pour moi, c'était vraiment un clin d'œil au cliché de la science-fiction pour ma première partie. Pour la suite, je pense pas vraiment rester dans cette veine-là. Mais c'était. Moi, je suis parti avec cette idée-là.
Et ça donne un côté ludique. Enfin, on joue un peu avec les éléments que les gens connaissent, que les gens perçoivent de la science-fiction. On voit un peu comment on peut les interpréter. Ça permet de faire des clins d'œil, ça permet d'amener un petit côté ludique, je sais pas, à tout ça.
Vraiment, les voyages spatio-temporels spatial, c'est vraiment intéressant à exploiter, en tout cas.
Oui, parce que vous êtes aussi les deux un peu dans un univers post-apocalyptique où on mentionnait la planète des singes. On peut voir aussi Mad Max pratiquement dans le sien un peu Rémi, là, je veux dire. Et dans une certaine mesure, donc on joue un peu avec ce type de futur-là.
Il y a une scène où c'est un combat entre deux robots dans une arène, exactement comme dans Mad Max. En tout cas, c'est pas mal inspiré de ça.
Et dans les deux récits aussi, vous avez choisi d'intégrer des... on va utiliser le terme anglais, des sidekicks robotisés, donc des robots qui amènent un peu une dimension humoristique aussi. On reste un peu dans l'univers du cliché dans ces choix-là?
Ça a l'air que c'est un petit peu ça. La thématique s'est imposée... par elle-même, parce qu'on s'était pas vraiment parlé de nos BD respectifs au départ. Puis ça a donné qu'on est arrivé dans des voyages spatiaux avec des robots et compagnie. Pour cette première partie-là, ça a bien donné. Pour la deuxième, on s'était peut-être plus parlé d'intégrer les extraterrestres. De mon côté, je vais rester plus dans un univers, dans un futur très rapproché, mm-hmm. plutôt que de partir vraiment avec une histoire qui pourrait se passer dans 300 ans.
Et j'imagine qu'il y a quand même un beau défi aussi, parce que c'est un peu une nouvelle littéraire. Je veux dire, on a à peu près une douzaine de pages format comics pour développer les personnages, pour développer l'histoire, pour amener le punch, amener des séquences d'action. Ça doit être quand même un bon défi de synthétiser tout ça.
Jouer avec le rythme de 12 pages, c'était extrêmement difficile parce que des fois, je me donnais comme dans une page de raconter quelque chose de vraiment précis, mais vraiment trop rapidement peut-être, là, qui serait peut-être à refaire. Mais en tout cas, à livre vraiment le contenu qu'elle devrait dire au lecteur, en tout cas.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti de ton côté, Mathéo?
Ben, moi, de mon côté, pour raconter à ce rythme-là, je me suis donné ça aussi, c'est d'arriver à la fin de chaque page puis d'avoir une action qui tourne autour d'une page, qui se termine après chaque page. Mm-hmm. Donc, le rythme est assez rapide.
Alors, enfin, on peut découvrir ça. On le mentionnait sur différents formats. On l'a dit plusieurs fois dans l'entrevue, c'est le début du projet, il y en aura d'autres. Est-ce que déjà, en fait, on espère, par exemple, pour le deuxième, faire quelque chose avec plus de deux BD, aller avec trois, quatre récits, ou garder cette structure-là pour les parutions, pour les publications?
Eh bien, pour le futur, j'aimerais avoir d'autres auteurs ou des œuvres différentes. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on va s'enligner prochainement. Là. J'ai commencé à contacter quelques auteurs, puis...
Puis s'il y en a qui nous écoutent, ben, on peut aller faire un tour sur le site web aussi pour voir un peu, pour vous proposer des projets, parce que vous êtes en ouverture de projet là, sur zidara9.com.
Oui.
Donc, s'il y en a qui nous écoutent, il y a possibilité aussi.
Ouais, puis il y a même une rémunération que j'offre aux auteurs pour essayer de motiver le monde à continuer dans ce genre-là.
C'est quand même quelque chose d'assez rare.
Oui, effectivement. Et à Québec, Mathéo, Rémi, où est-ce qu'on trouve, en fait, je pense qu'il y en a chez Phylactère, il y en a à l'Imaginaire.
Il y en a aussi à Première Issue. Puis chez Planète BD.
Planète BD à Montréal.
Donc déjà une bonne première distribution là, pour découvrir ce projet-là, puis le voir grandir aussi, parce que c'est ce qu'on souhaite ultimement.
Ouais.
Ben, déjà, j'ai vu que Renaud Blé allait l'ajouter à sa collection bientôt. Et on va sortir aussi des librairies spécialisées pour essayer d'attirer un public qui est peut-être pas connaisseur.
Alors bien, on vous souhaite la meilleure des chances et on suivra l'évolution de Zidara 9. Alors, Rémi Paradis, merci. Mathieu Bernier, alias Mathéo, merci également.
Merci bien.
À la prochaine. Alors bien, voilà, regard sur Zidara 9. Je vous redonne le site internet, d'ailleurs, zidara9.com, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. BD sur les ondes de CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Petit extrait de la pièce My Sugar Melted de Banjo Consortium. Et petit commentaire de rattrapage, tiens, avant d'aller en pause, très rapidement. En fait, ça m'avait échappé, c'est sorti en septembre et je me suis rattrapé en novembre, mieux vaut tard que jamais. Et je vous incite à faire la même chose de votre côté. C'est une bande dessinée qui s'appelle Zara's Paradise de Amir et Khalil. En fait, c'est une bande dessinée qui était d'abord sortie format blog, qui a été traduit en des dizaines de langues, qui a vraiment, vraiment bien fonctionné d'ailleurs à l'international et qui se retrouve chez Casterman en format BD, en format roman graphique. Et c'est intéressant, fait un peu dans la lignée de Persepolis où Marjane Satrapi nous faisait découvrir un Iran à différentes époques, un Iran qui n'était pas toujours le pays de rêve, un Iran qui dont les protagonistes cherchaient à réinventer, à le transformer, mais c'est un peu dans cette lignée-là, mais là plutôt qu'être il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, on est il y a 2 ans, on est en 2009, je sais pas si vous vous rappelez dans l'actualité, mais c'est ces élections entre guillemets volées par Mahmoud Ahmadinejad. Donc, on voit un peu les suites de ces élections-là, les suites des manifestations qui ont entouré également ces événements. Donc, on suit l'histoire d'un jeune Iranien et de sa mère qui sont à la recherche de leur fils, de leur frère, donc qui s'appelle Mehdi, et qui manifestait et qui a disparu après ces manifestations. Donc, qu'est-il arrivé? Donc, ils vont creuser toutes les pistes possibles, de la prison au tribunal, au cimetière, pour tenter de savoir s'il est vivant ou s'il est mort et dans quelles circonstances est-il décédé, si c'est le cas, ou est-il emprisonné? Et ce qui est doublement intéressant, c'est, bon, ça c'est l'ancrage un peu fictif, mais pour bâtir cette fiction-là, les auteurs qui sont blogueurs, qui je crois sont, en fait il y a certains anonymats autour d'eux pour pas qu'il y ait de problème en Iran, et donc ils ont fait des entrevues, ils ont rencontré des gens, ils ont posé des questions, donc ce qui fait que chaque acte de cette bande dessinée devient un peu le reflet d'une action qui se passait sur place, vraiment une forêt à l'intérieur de la réalité iranienne qui est extrêmement intéressante, qui donne un côté très journalistique aussi à cette bande dessinée. Alors, le dessin n'est pas nécessairement le plus beau dessin au monde, mais il fonctionne. On représente, en fait, de manière adéquate ce qui se passe, mais je vous la recommande principalement pour le propos qui est véhiculé, pour les réflexions qui sont retrouvées à l'intérieur de ce volume-là, qui, elle, vraiment mérite le détour. Et si ce n'est, en fait, pour mieux saisir ce qui se passe en Iran et pour saisir également l'ampleur d'une certaine grogne envers le régime en place autour, justement, de différents dossiers extrêmement préoccupants. Alors, Zara's Paradise, c'est publié chez Casterman. C'est disponible en librairie là au moment où on se parle. On prend une courte pause. Au retour, Stéphanie Leduc qui nous parle de Titi Krapouti, tome 2. Également Michel Giguère qui nous entraîne dans la Londres du 19e siècle.
Vous pourriez vivre vos rêves au max. Parce que ce vendredi, le gros lot du Lotomax est évalué à 40 millions de dollars. 40 millions. Lotomax.
Le vendredi 4 novembre, le Cercle fête ses 4 ans. Pour souligner le carrefour artistique et agroalimentaire qui grandit en Saint-Roch, le Cercle vous invite à son anniversaire sous la forme d'un grand marché festif. Venez voir et entendre Bernard Adamus, Maggoty Bratz, Jewish Daily Night, Cabina Obscura, This Is Not Design, Morgan Bridge et Stigmat Photo. Venez déguster la cuisine du Cercle, la boîte à pain, la poissonnerie Jeff, le clocher penché, la coop des grands rangs, l'artisan charcutier, la face cachée de la pomme, Appleton Reserve et Lokum Cupcake. Le vendredi 4 novembre de 18h à 3h du matin. Le happening, c'est la fête du Cercle. Information 88 988 76 84. Le tradeunioncercle.ca.
Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine.
Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter un t-shirt de notre jeans. Tu as toujours voulu devenir une Duchesse. C'est possible, n'attends plus. Duchesse, histoire. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs, de 18 à 18 ans, rendez-vous à Revengeance Duchesse avec un SC.com et remplissez le questionnaire pour devenir Duchesse. 18 novembre, la Revengeance des Duchesses 2012. Ce sera la fin du monde.
Tu es vraiment infernal.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 88-529-3829.
Retour à la vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Et on va porter maintenant un petit regard sur un album qui a été lancé tout récemment. C'est le tome 2 de la série jeunesse de Stéphanie Leduc, Titi Krapouti et compagnie. Tome 2 qui s'appelle L'Exode des cerveaux. Et l'auteur est au bout du fil pour nous en parler. Stéphanie Leduc, bonjour.
Bonjour.
Alors, un tome 2, en fait, qui a été lancé bien à propos dans les environs de la fête de l'Halloween. Il faut dire, en fait, que l'esprit d'Halloween imprègne cet album-là de belle façon. Là.
Oui, c'est pas spécial Halloween qu'on s'est battu pour qu'il arrive à temps, même que idéalement ça aurait été au début du mois, mais il est sorti 10 jours avant Halloween, pendant que ça battait son plein. Et c'est un album dont je suis très fière.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré justement dans l'esprit d'Halloween pour amener cette fête dans l'univers quand même un peu absurde et un peu, disons, assez riche quand même aussi de Titi Krapouti?
Oui, à quoi j'ai pensé, ben ça a commencé avec une idée de départ qui était la mort du croque-mort. Mm-hmm. Puis la mort du croque-mort qui roulait un tombeau ouvert, puis qui a fini par percuter mortellement le mur du son. Puis bon, ben c'était un bon vivant, puis c'était lui pendant l'Halloween qui protégeait la ville des fantômes, etc. Et sa mort juste avant Halloween, c'est un gros problème technique. Qui a permis au chef fantôme, le chapardard, de voler tous les cerveaux des adultes de la ville d'Absurdido, qui a fait d'eux des zombies. Mmh. Fait que là, il y a des zombies dans cette tombe-là, puis pour aller chercher les cerveaux, ben, il faut aller à Perdido, qui est un peu un pendant négatif.
En fait, on a l'impression pratiquement que vos héros se promènent dans un mauvais rêve dans cette ville-là.
Exactement. C'est la ville labyrinthe qui est peuplée de morts-vivants, parce que les morts-vivants, c'est pas la même chose que les zombies. En tout cas, je fais une différence dans l'histoire. Fait que pour les enfants, c'est un beau petit livre d'Halloween sans être horreur comme Walking Dead.
Et Stéphanie Leduc, j'ai l'impression, en fait, autant dans le premier où justement vous vous construisiez Absurdio, dans le deuxième, vous construisez aussi Perdido. Donc, on sent un certain plaisir de votre côté à construire, à bâtir, à inventer des univers.
Oui. Puis chaque fois, c'est thématique. Perdido, c'est complètement une autre ambiance. C'est aussi des ambiances pour moi. Le tournoi est très lumineux. C'est l'été, c'est chaud. On est en vélo. Dans le quartier, alors qu'avec Perdido, c'est la nuit, c'est plus sombre, on est dans la forêt, il y a des monstres. Mm-hmm. Alors c'est vraiment un jeu d'ambiance complètement différent, puis ça a été un autre genre de défi pour moi.
Et donc c'est un peu l'idée de se donner un cadre, de dire ok, pour l'ambiance, pour les couleurs, pour le type de personnage, où je m'inspire un peu de cet ensemble-là, c'est se donner des contraintes dans le fond?
Oui, c'est au fond, je me fais plaisir. Quand je dessine mon album, il ne faut pas que je m'ennuie. Et c'est pas juste à la lecture, c'est pendant que je le fais. Il ne faut pas que je m'ennuie. Puis faut chaque fois qu'il y a des rebondissements. Puis au fond, je suis généreuse dans mes livres. Je mets de la viande.
Et vous disiez que les contraintes, justement, pour l'exode des cerveaux étaient différentes du premier volume. En quoi, justement, c'est un peu le contexte devenait différent par justement la part de ce thème-là?
Tant au niveau graphique que scénaristique, parce que le tome 1, c'est 4 petits épisodes, pratiquement, c'est 3 règles, 3 épisodes. Et le tome 2, c'est carrément une histoire qui se tient de A à Z, un long récit. Alors, ça aussi, ça a été un défi pour moi. Et ça a été la transition du début de l'album, qui est dans Absurdo, à la ville de Perdido, qui est complètement une autre ambiance, avec en plus... l'automne, l'Halloween, le changement de saison. Si un tome 3, ça va être l'hiver avec Noël, puis un nouveau village qui va avec le Père Noël.
Et en même temps, faut dire, en fait, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, mais quand on réussit à franchir du tome 1 au tome 2, il y a déjà plus de chances pour que la série prenne son envol. Souvent, c'est le tome 2 qui devient un peu le moment charnière dans l'évolution d'une série. Y aura-t-il un tome 2? Et après ça, on peut assumer que ça va continuer.
D'autant plus quand le tome 2 est encore meilleur que le premier, puis que le troisième s'annonce encore. Bon, mais Petit Crapouti, c'est une bande dessinée de niche, c'est-à-dire que ça s'adresse aux enfants de 4 ans à 8 ans surtout. Mais c'est une bande dessinée alors que les jeunes de cet âge-là lisent plus des livres illustrés pour enfants. Mm-hmm. Alors, c'est une bande dessinée qui est un peu assise entre deux chaises. C'est un gros défi de cibler le public par rapport à ça, de la placer. Mmh. Et c'est pour ça que pour le tome 3, c'est vraiment à voir. Ça va dépendre du parcours du tome 2.
Alors, on touche du bois pour vous, Stéphanie.
Je prie. Parce que j'adore ça.
Et il faut dire, en fait, il y a le côté très enfantin, mais pour les parents, en fait, moi, pour les gens de mon âge, on y trouve quand même aussi un certain compte, dans la mesure où, je veux dire, vous mettez beaucoup, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots, notamment, donc des éléments où je me dis, ça peut passer au-dessus de la tête des enfants, mais les parents vont rigoler, là, vont sourire aussi à ces moments-là.
Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais c'est pas les adultes qui, par eux-mêmes et pour eux, vont acheter du crapouti.
Effectivement.
Un livre qui se lit très bien à haute voix, mais les adultes trouvent leur compte vraiment.
Et quel devient un peu le défi, justement, quand on travaille pour cette clientèle quand même très, très précise, pour s'assurer aussi, justement, que la BD va réussir à capter leur attention, va réussir à soutenir leur attention aussi pendant quand même la quarantaine de pages. Donc, comment on se prépare un peu pour s'assurer de bien répondre aux besoins, entre guillemets, de sa clientèle?
Moi, je m'inspire de ce que j'aimais quand j'étais petite, de ce qui m'accrochait, puis c'était Garfield. Et quand j'étais petite, à 10 ans, j'ai fait ma première bande dessinée de Garfield. Et je dirais que ce qui a foutu dans son style cartoon ramène un peu à ça. Et c'est de maintenir un rythme assez soutenu, de toujours surprendre. À chaque page, ça amène une surprise et le dialogue est riche. En tout cas, on ne s'endort pas.
Mm-hmm.
C'est pas un rythme lent.
et les conséquences, souvent, en fait, des événements, ne seront pas seulement des conséquences morales, ça va paraître sur le physique des personnages. En fait, Titi Krapouti, dans le premier tome, il finit par avoir les yeux très grands parce qu'il veut voir loin et éventuellement, il perd ses rêves. Hein, il n'a plus les grands yeux.
Oui, c'est ça. Le chatardard, il vole son rêve et Titi cesse de voir grand. Alors, il se retrouve avec des petits yeux comme quand il était bébé. Et là, il faut le défi, c'est de tout retrouver ça, de retrouver sa motivation.
Donc, c'est un peu de trouver ça des codes dans le dessin pour accompagner un peu le propos, pour illustrer, pour que ça passe rapidement aussi. OK, c'est ça qu'il ressent, c'est ça qu'il a l'air, dans le fond. Donc, c'est...
Oui.
Qu'il y a une adéquation.
Oui, exactement. Puis Justine, la justicière, un nouveau personnage du tome 2 qui est une morte vivante là-dedans. Elle apporte des lunettes parce qu'elle a une vision différente des autres morts vivants. Puis quand un moment dans l'histoire, elle est déprimée, ben elle enlève ses lunettes, ça la transforme complètement. Tout est une façon de voir dans Titi Krapouti. Puis c'est notre façon de voir la vie qui fait qu'on est heureux ou non. En tout cas, c'est la morale du livre.
Et nécessairement, en fait, j'ai l'impression, autant dans le premier, vous êtes laissé quand même une bonne liberté, justement, avec un univers qui est un peu survolté, un peu sauté aussi, pour pouvoir aller un peu dans différentes directions, pouvoir le développer aussi quand même assez librement. Donc, il n'y a pas trop de contraintes non plus pour vous en tant qu'auteur.
Non, vraiment, Capri, c'est la liberté. Quand j'écris, j'improvise carrément. Ça s'appelle un brainstorming. Et chaque événement entraîne le suivant, mais ça a une logique, c'est sûr. Et vraiment, Krapouti, pour moi, c'est une découverte dans l'écriture, dans le graphisme. C'est plein de bons sentiments.
Voilà. Ah ben, on invite les gens à découvrir donc cette série, si ce n'est déjà fait. Donc, le tome 2, l'Exode des cerveaux, attend pour l'Halloween. Et en fait, je le souligne aussi au bout du compte, parce que dans le premier, en fait, les couleurs qui étaient très présentes aussi, je veux dire, graphiquement, je disais survolté tout à l'heure, j'ai l'impression que le terme est encore de mise là, pour le tome 2, même si on est dans le répertoire des couleurs de l'automne.
Oui.
Ah ben, Stéphanie Leduc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne fin de journée.
Vous aussi, au revoir.
De Banjo Consortium, ça c'est la pièce de Letter M, et c'est vraiment tout des univers comme ça qu'on retrouve sur cet album, A Turning One, je trouvais, avec début novembre, comme ça, il y avait une richesse, il y avait quelque chose qu'on pouvait découvrir et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais là, on change en fait, parce que la musique ne cadre pas, je trouve, avec l'univers qu'on va explorer, qui est celui de la Londres du 19e siècle. Mercredi prochain, c'est le nouveau rendez-vous de la bande dessinée, donc édition de novembre, qui va s'intéresser à cette thématique-là. En fait, le thème exact, c'est décrit dans la brume, Londres au 19e siècle. Et aujourd'hui, à la VMBD, on va mettre un peu la table pour la rencontre de mercredi en compagnie de Michel Giguère. Bonjour.
Salut Raymond.
Ça va bien?
Oui, super.
Et j'ai l'impression, en fait, d'emblée, peut-être première question, pourquoi on parle de Londres au 19e siècle? Pourquoi ce thème-là qui est peut-être un peu inattendu quand on parle de rencontres sur la bande dessinée?
En fait, la réponse la plus probante que je pourrais faire, c'est mercredi prochain sur écran que je vais la donner. Mais en attendant, il faut dire que c'est un lieu et une période qui a énormément inspiré les conteurs, que ce soit des gens qui écrivent des romans, qui tournent des films ou réalisent des BD. Et en bande dessinée plus particulièrement, bien, j'ai été frappé ces dernières années par la profusion de séries et de récits inspirés par l'Angleterre victorienne. À lui seul, le Sherlock Holmes fait l'objet d'une pléiade d'adaptations récentes. Généralement, d'ailleurs, plus fidèle à l'œuvre originale que le film avec Jude Law et Robert Downey Jr.
Le gros film d'action.
Oui, c'est ça, qui est une espèce de trahison de ce qui était vraiment Sherlock Holmes. Et comme il y a une part des personnages qui ont marqué Londres au 19e siècle qui sont assez inquiétants, mais j'ai pensé que ce serait une façon assez originale de souligner le mois des morts, plus qu'un thème qui aurait tourné autour de la BD d'horreur à proprement parler.
Et surtout, en fait, quand on le mentionne, je veux dire, le cursus londonien, tu disais, est vraiment immense, ouais. En fait. J'imagine que d'un côté, en fait, il faut dresser le cursus, trouver les livres, et de l'autre côté aussi, il faut cerner la ville de Londres à cette époque, savoir qu'est-ce qu'était la Londres du 19e siècle, et voir aussi de quelle manière la BD qui s'adresse à cette époque-là est en adéquation avec la réalité historique.
Elle peut coller à la réalité ou s'en éloigner. Il reste que c'est Londres à ce moment-là qui est une espèce de creuset qui inspire beaucoup les auteurs de l'époque et qui n'a pas cessé après d'inspirer les auteurs des générations et des siècles suivants. Et c'est vraiment une influence qui a été durable jusqu'à aujourd'hui et jusqu'en Asie, parce que j'ai pas eu de difficulté à trouver des mangas et des manhwas qui se passent à Londres à la fin au cours du 19e siècle. Alors, donc, pour situer un petit peu Londres, c'est quoi Londres? Qu'est-ce que ça représente à l'époque victorienne? L'époque victorienne, d'ailleurs, selon Robert, qui court de 1815 à 1914, alors que le règne de Victoria, c'est 1837 à 1901. Donc, c'est comme si l'époque victorienne, comme telle, déborde le règne de Victoria, comme quoi, juste avant et juste après, il n'y a pas eu grand-chose de marquant, peut-être. Et puis, c'est une période qui est caractérisée à la fois par une course effrénée à la modernité. Londres est la plus moderne des villes de l'époque, là. Et en même temps, un profond conservatisme sur le plan des valeurs et des idées. Un conservatisme qui va tout de même être assez secoué par des gens comme Darwin, Freud, Marx et nombre d'écrivains dont on va reparler.
Donc c'est peut-être un peu un parallèle qui stimule justement côté auteur. Donc un moment où la science, la foi, les manières, la bourgeoisie, la nouvelle bourgeoisie s'affrontent.
Les mœurs. Et juste pour vous dire, en 1851, c'est l'année de l'exposition universelle à Londres, on a fait une espèce de recensement et la population qui était en pleine croissance dépasse à ce moment-là les 2 500 000 habitants avec des conditions de salubrité qui ne sont pas toujours idéales. En 1862, c'est la construction du premier métro de l'histoire du monde qui était à Londres. C'est à cette époque-là la première ville d'Europe, l'une des plus grandes agglomérations du monde, qui est très polluée. Avec des inégalités sociales que l'industrialisation galopante amenuise pas vraiment. Et d'ailleurs, ça va soulever l'indignation des syndicats, qui eux autres aussi sont en plein développement. C'est une grosse période. Et ça va soulever l'indignation également de gens comme Charles Dickens, George Bernard Shaw, et d'autres écrivains dont on parle encore aujourd'hui.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments de la littérature d'aujourd'hui qui ont été faits au 19e siècle, de Jane Austen à Sherlock Holmes, qui s'intéressent au 19e siècle à Sherlock Holmes, en passant par ceux que tu as mentionnés. On peut presque même ajouter Jules Verne à un certain degré. Donc, il y a des classiques qui ont marqué l'imaginaire collectif de l'Occident qui ont été faits à cette époque-là.
Écoute, c'est tellement vrai que tu parles de Jules Verne, je ne m'attendais pas à ce que tu le nommes, mais tu me fais penser que oui, il y a toute une mouvance plus ou moins récente de récits qui mêlent la science-fiction, mais une science-fiction rétro à la Jules Verne, avec l'espèce de climat qu'il pouvait y avoir et d'esthétique un peu gothique aussi là, qui y avait autour de ce Londres-là, qui est mythique aussi. Donc oui, tout ça est lié. Et c'est des auteurs et des œuvres. Bon, tu as nommé Jane Austen, qui était une de celles qui a inventé le roman moderne axé sur la psychologie des personnages. Et néanmoins, c'est encore, et ça a toujours été vraiment populaire. C'est des classiques populaires.
En fait, il y a des adaptations cinéma, tu le disais tout à l'heure, pratiquement annuelles là, de différentes séries du 19e. Là,
c'est... Absolument. Alors, écoute, pour y aller très, très rapidement, là, moi, je me suis limité à des récits qui se déroulaient à Londres à cette époque-là. Donc, On élimine l'île au trésor, Les Hauts de Hurlevent, Alice au pays des merveilles, Jane Austen, Frankenstein, c'est majeur. Mais quand même, je suis pas mal pris. Il me reste toutes les versions de Sherlock Holmes. Il me reste Peter Pan, Oliver Twist, David Copperfield et trois œuvres qui vont devenir des archétypes du fantastique. Dracula, L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Le portrait de Dorian Gray. Juste ça, c'est des œuvres qui ont non seulement été reprises et reprises, mais qui ont générer un tas de clones et de récits qui s'en inspirent très largement.
Et Michel Giguère, quand on regarde, parce que bon, pour les rendez-vous de la BD, tu fais toujours un travail de recherche hallucinant, en fait, de planche en planche. Et qu'est-ce qu'en ressort? En fait, si on aurait quelques éléments frappants à proposer aux auditeurs ce soir, qu'est-ce qu'on mettrait de l'avant?
C'est ça, hein? À chaque fois que je prépare un thème, c'est ensuite de visu. Moi, j'ai ça sur mon écran d'ordi, puis le soir même, c'est sur grand écran. Et là, je me passe les planches l'une après l'autre qui sont regroupées, et c'est une expérience assez spéciale parce que tu changes d'esthétique. Et ce qui ressort là, cette fois-ci, c'est la richesse inouïe. On parle d'une seule ville pendant une poignée de décennies. Puis on disait que l'imaginaire occidental et même oriental est encore profondément marqué par tout ça. Et même un personnage comme Jack l'Éventreur continue de fasciner, alors que dans le fond, il y a plein de tueurs en série qui ont fait bien pire depuis. Mais on dirait que c'est parce que ça s'est passé à ce moment-là. C'est comme marqué dans notre imaginaire. Et puis, par ailleurs, il faut dire que les créateurs de BD se permettent beaucoup de liberté. Ils n'hésitent pas à faire se croiser dans le même récit. Kipling et Stoker, celui qui a écrit Dracula. Hyde et Frankenstein, Dracula et Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur et Peter Pan dans les mêmes histoires.
C'est comme s'il y avait un vocabulaire qui était disponible, qui était l'ensemble du vocabulaire du 19e siècle qu'on pouvait jouer.
Mais quand on parle d'archétype, oui. Effectivement, il y a comme une grammaire, un langage, une esthétique, des codes. Et puis, on les mêle, on les triture, mais toujours quand même avec un certain respect, puis on sent néanmoins l'admiration de ces auteurs-là pour les œuvres originales. Et il faut dire enfin qu'il y a un tas d'œuvres dont on parle qui sont très fidèles aux originales et qui sont tout aussi intéressantes.
On imagine ce genre de sujet-là. Donc, d'un côté, il y a les fans de BD qui vont s'y retrouver, qui vont apprécier l'exploration visuelle. Il y a aussi les fans de littérature qui vont voir aussi de quelle manière cet univers littéraire-là s'est transposé en BD.
Absolument. Et je dirais aussi les amateurs d'histoire qui vont trouver leur compte, mais j'appuie sur rien en particulier, donc ce ne sera pas barbant pour personne. Mais il reste que tout ça crée une espèce d'amalgame où on va voir des images et des gravures d'époque qui vont nous situer un petit peu. Puis après ça, on va voir un petit peu la version, de quelle manière les différents dessinateurs ont figuré une ville finalement qui n'existe plus sous cette forme-là vraiment, parce que Londres, contrairement à Paris, a été largement bombardée durant la Deuxième Guerre mondiale, fait qu'il y a plein de quartiers traditionnels de cette époque-là qui ont changé de face complètement.
Ce qui laisse une liberté de création aussi assez intéressante. Je veux dire, pour le même quartier, le même secteur, l'auteur de manga va le présenter d'une certaine manière. Karl Almore va le représenter via ses dessinateurs.
Mais ça, c'est une autre chose qui m'a frappé, pour revenir à ta question de tout à l'heure, à savoir que il y a une espèce de cohésion, les mêmes thèmes reviennent, un petit peu les mêmes paysages, les mêmes images marquantes de certaines rues, le brouillard, Big Ben, le pont de Londres, tu sais, il y a des choses, le British Museum, ça, tu sais, il y a des choses qui tournent autour de ça, parce qu'il faut dire que, on ne l'a pas dit, mais Londres est à ce moment-là la capitale de l'empire le plus puissant de la Terre, dont on disait que le soleil se couchait jamais sur cet empire-là, parce que c'était la Chine, c'était l'Inde, c'était la Nouvelle-Zélande et l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Égypte, c'est hallucinant. Ils ont pillé ces cultures-là pour mettre ça dans le musée. Donc, il y a tout ça qui enrichit le propos aussi, là. Mais effectivement, la littérature est présente. L'histoire, et il faut dire aussi qu'il y a des créations en BD qui s'éloignent un peu de tout ça, et puis qu'à travers des récits très sombres autour de Jack l'Éventreur et un tas d'histoires qui sont pas jojo, parfois même épeurantes, ben, il y a des trucs, des bouffées d'air frais, de l'humour très british, flegmatique, donc, avec par exemple, je pense à Green Manor, La fille du professeur et quelques parodies bien senties.
Donc, est-ce que ça donne l'impression, Michel, que les auteurs BD qui reproduisaient cet univers-là sont aussi influencés peut-être entre eux? Dans l'esthétique de cette Londres du 19e siècle?
La bonne question. Je te dirais en tout cas que ce qui vient d'Asie est influencé par tes zucchinis plus que par n'importe quoi d'autre. C'est vraiment une esthétique très, très sentie là, qu'on reconnaît. Pour ce qui est des BD faites en Occident, il y a des histoires de Dracula qui ont paru chez Marvel, que ça fait vraiment Marvel. D'ailleurs, c'est les mêmes équipes de dessinateurs. Là. Et puis, non, sais-tu, il n'y a rien qui m'a frappé pour ce qui est de l'influence entre les différents dessinateurs. Il y a peut-être des gens qui se sont appliqués à reproduire un dessin académique classique qui faisait peut-être un peu 19e siècle, un peu gravure de cette époque-là.
Et si on avait justement peut-être, on met la table aussi pour le 9 novembre, pour les rendez-vous de la BD à la Bibliothèque Gabriel-Leroy à 19h30, donc autour de cette langue du 19e siècle, et si on veut un peu se préparer, est-ce que tu aurais peut-être 5 titres à tout le moins à nous proposer?
Alors, outre ceux dont j'ai déjà parlé, puis entre autres, bon, il y en a un qui me revient à l'esprit, là, c'est le Peter Pan de Loisel qui est vraiment... est un petit peu à la sauce Oliver Twist, et c'est fort et c'est très pertinent. Il y aurait quelque chose qui s'appelle l'ultime défi de Sherlock Holmes, pour quelqu'un qui voudrait retrouver le vrai Sherlock Holmes dans un style justement qui fait un peu rétro pour ce qui est des dessins. Ensuite, une série qui s'appelle Les Quatre de Baker Street, pour les gens qui aiment la BD grand public et qui aimeraient voir des vues de Londres, elles sont en abondance dans cette série-là, et c'est magnifique. La brique d'Alan Moore que tu évoquais tout à l'heure, From Hell, sur Jack l'Éventreur, qui est une expérience de lecture qui est à la fois exigeante et dérangeante. Idem pour le Dr. Jekyll de Matotti, qui ressemble à rien. Et enfin, une nuit chez Kipling, pour ceux qui aimeraient s'inviter à une espèce de réception où il y aurait tout et tout le monde. Là, c'est hallucinant de lire cette histoire-là. Tout le monde dont j'ai parlé ce soir sont là.
Ah bon, on a nos devoirs de lecture pour mercredi prochain.
Des devoirs plaisants.
Et on invite les gens, mais je répète, à aller te rejoindre donc à ce rendez-vous de la BD, donc mercredi à 19h30.
C'est gratuit, pas besoin de réserver.
Voilà. Michel Giguère, merci beaucoup.
Salut Raymond.
À bientôt. Prochaine. Et voilà, nous c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD sur les ondes du 89.1. Dans quelques instants, l'émission 100% Dynamite va prendre l'antenne. C'était Raymond Poirier au micro, ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et on vous dit, ben, revenez-nous la semaine prochaine. Il y aura notamment Delaf et Dubuc, auteurs des Nombrés, qui seront de passage à l'émission.